Est-ce que vous vous connaissez des faiblesses?
Si, je suis un petit peu trop perfectionniste, ça oui. Ouais. Il me faut toujours le meilleur, sinon rien du tout. Si c'est trop limite, je veux dire, laisse tomber. Mais là, cet entretien, je veux dire, là, je le sens bien, là, tu vois. J'ai l'impression que ça se passe pas mal, non?
Libre Radio, les vrais grands entretiens.
Nous sommes dans le cadre du festival Melting Grotte, ici en plein cœur des grottes, entre le pavillon bleu et l'arcade où se passent différents événements. Et nous sommes en compagnie de Myriam et de Paul. Merci de nous recevoir. Et vous nous recevez à l'occasion de l'exposition des œuvres d'Emile Anderfuren-Biget, si je prononce bien.
Oui.
Voilà. Alors vous allez d'ores et déjà vous présenter, comme ça on en saura un peu plus quant à vous. Et puis ensuite nous allons parler de cette exposition en deux parties. La première partie, ce sera plus une explication essentielle, globale, générale. Et puis ensuite, si, avec votre accord bien entendu, nous déambulerons au travers des œuvres à l'intérieur du pavillon bleu et vous nous expliqueriez justement certaines esquisses, certains dessins parmi les œuvres justement d'Emile Anderfuren-Biget. Alors qui veut commencer? Peut-être Myriam.
Ok, d'accord. Bon, ben, je m'appelle Myriam. Et je suis de Genève, mais là ça fait 5 ans que je vis en Nouvelle-Zélande. Et donc cette exposition, bon, on en parlera un peu plus, mais Emile, donc, c'était mon beau-frère. Et qui est, ben, il est malheureusement décédé il y a un an. Et donc quand j'ai appris la nouvelle, j'étais encore en Nouvelle-Zélande. Et puis ben, pour moi, c'était assez frustrant en quelque sorte de ne pas pouvoir être là pour avant que ça se passe et aussi ben, quand ça, tout s'est passé. Et donc j'avais déjà organisé une exposition avec Emile et on avait bien travaillé ensemble. Moi j'adore son art, enfin, j'ai toujours été une grande supportrice et je me suis dit ben voilà, c'est l'occasion, il faut lui rendre hommage, il faut se souvenir de lui. Et donc j'ai eu un peu cette idée folle de me dire faut que j'organise une expo tout en étant en Nouvelle-Zélande. Et ben, mon père m'a suivi, heureusement, parce que sinon, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Voilà.
Voilà, alors, moi, c'est Paul. Je suis, comme Myriam a dit, le beau-père. Et en fait, comme moi, j'ai fait les beaux-arts, j'étais prof de dessin. Et évidemment, j'étais déjà très proche d'Emile à travers les arts. Lui-même, il a fait les arts déco. Et après aussi un bout de beaux-arts. Et on avait quand même ce terrain commun, les arts. Et quand Myriam a décidé d'organiser cette exposition, moi j'étais en janvier, j'étais en Nouvelle-Zélande et on a discuté ensemble, on s'est partagé les tâches. Elle a fait toute la partie informatique possible et moi j'étais allé concrètement rassembler les dessins, les peintures et commencer à les ranger, à organiser des thèmes de cohérence et voilà.
S'il fallait décrire le travail artistique de l'auteur, qu'est-ce que vous en diriez en quelques mots clés?
Alors, il a peut-être deux, trois axes, hein, non même quatre. Je dirais qu'il a un axe qui est le fantastique. Emile, il était très très intéressé par la BD. Et il a développé un dessin qui aurait pu aboutir à une BD, je veux dire. C'est le monde, en tout cas un monde qui correspondait tout à fait à la BD. En même temps, il avait un envie de... Il avait quand même l'exigence de se placer par rapport à l'art, à la grande art, oui. C'est-à-dire avoir une démarche artistique. Et d'ailleurs, c'est pour ça, après les Arts Déco, il a voulu continuer aux Beaux-Arts. Et alors, on a une démarche qui, oui, je dirais, qui est un peu l'expression d'une démarche artistique qui cherche son écriture, son vocabulaire, mais en même temps, très vite, il avait une volonté de quasiment un langage politique, je dirais. Voilà. C'est-à-dire, il avait un regard très critique, très lucide sur le monde, alors que lui-même était peut-être un peu en difficulté par rapport à la société. Et dans son travail, il a su, avec assez de lucidité, de donner forme à... Voilà, on pourrait dire une critique politique. Voilà. Une autre axe, c'est que il a aussi fait la musique. Et c'est-à-dire, il a, d'ailleurs, on a édité un double CD avec sa musique. C'est-à-dire, lui, il est musicien seul avec son ordinateur. Il a, en fait, c'est la musique techno, mais ce n'est pas la techno pour danser, sinon la techno pour écouter.
Ouais, ouais.
Et
une techno, disons, intérieure, intimiste, pour être
voilà, dire. Intimiste, ouais, voilà, créatif, très, très créatif. Oui. Et après, il a aussi, dans la musique, il a aussi sa partie slam, rap, où lui-même, il a écrit les textes et il était vraiment doué pour l'écriture, pour la poésie. Et dans la poésie, avec justement, avec des mots très précis, il arrivait à avoir un regard sur le monde, et beaucoup sur le voilà. Et allez, alors c'est un peu c'est
voilà, ça ce sont les axes principaux. Alors on a bien compris, il y a effectivement toute la partie sur laquelle on va bien entendu insister, sur laquelle on va revenir, la partie visuelle. Mais vous venez de le dire, il avait quand même un intérêt pour l'écrit, pour les mots.
Oui. Ah oui.
Puisque évidemment le slam, oui. Voilà. Peut-on dire dans quelle proportion les mots interviennent dans son œuvre ? Est-ce qu'ils sont là pour appuyer des dessins qui sont la centralité de son art, ou est-ce qu'ils sont également une centralité ?
Alors que lui, il est vraiment représentatif des artistes aujourd'hui qui sont très multiformes. Hein. Et on ne peut pas dire qu'une chose est plus importante que l'autre. C'est plutôt il avait des moments où une chose était plus au centre et après ça évoluait. Vers l'autre. Et non, on ne peut pas dire. Ouais.
Et puis alors, y a-t-il des thèmes qui sont récurrents et dans ses écrits et dans ses œuvres peintes, dessinées?
Je dirais que le thème récurrent, c'est vraiment mon critique de la société et aussi, surtout dans ses... Bon, je pense qu'on peut voir dans ses textes et dans ses œuvres une sorte de... Il se disait toujours qu'il n'était pas vraiment, en fait, en quelque sorte, qu'il n'arrivait pas à trouver son rôle dans cette société, il n'arrivait pas à s'y intégrer, il n'arrivait pas à s'y adapter. Donc en fait, on ressent, il parle beaucoup de ce mal-être en quelque sorte. Et je pense qu'on le ressent pas mal dans certaines de ses œuvres. Donc ça, je dirais, c'est quand même les deux thèmes les plus récurrents. Il y a d'un côté cette critique très lucide aussi de notre société, avec consommation capitaliste. Et aussi lui qui disait qu'il n'arrivait pas à s'y intégrer. D'un côté, je pense que d'un côté, il était partagé. D'un côté, il était peut-être... vu qu'il avait cette vue très, très réaliste de cette société, il était heureux de ne pas s'y adapter parce qu'il voyait tous ses défauts. Mais d'un autre côté, ça rendait la tâche très difficile pour lui de fonctionner en tant
trouver
une place et de fonctionner en tant qu'individu. Ouais.
D'accord. Ses œuvres sont-elles plus, alors, du coup, un acte de rupture, ou est-ce que c'est plus un acte de révélation d'un mal-être intime? Est-ce un petit peu tout en même temps? Est-ce que quand il dessine ou quand il écrit, dit-il la déliquescence du monde, dit-il la déliquescence, sa propre déliquescence face à un monde qui le perd? Quelle est sa posture?
Alors je dirais c'est d'abord la critique du monde, mais en même temps c'est un peu comme une médecine, hein, c'est-à-dire pour pouvoir vivre dans ce monde, à travers le travail artistique, on l'exprime, on l'extériorise, on se positionne. Mais comme il avait, à travers un travail créatif, artistique, ça lui a permis de donner forme à la révolte. Pas seulement crier comme ça, sinon de vraiment donner une forme, et à travers la mise en forme de devenir plus pertinente, plus... Voilà, c'est ça.
Lorsque l'on est dans des états, justement, un petit peu de tension permanente comme celle-là, est-ce qu'on trouve, au travers de son œuvre, quand même, des pistes qui mènent à l'espoir, des pistes qui mènent à la rédemption, ou est-ce que, quoi qu'il en soit, on est condamné?
Oui. Oui, c'est... Je dirais, c'est un peu comme vous dites.
C'est vrai. Hein. On plonge.
C'est-à-dire, c'est un monde qui ne laisse pas beaucoup de place à quelqu'un qui cherche autre chose. C'est-à-dire, soit on se range dedans, ou on est dehors.
Ouais.
Et lui, il se sentit dehors.
Ouais. Et justement, alors, quand on est un tel artiste, est-ce que cela se voit sur la personne? quand elle déambule dans la rue, est-ce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est porté, qui est de l'ordre du désespoir, ou est-ce qu'on arrive quand même à avoir une posture artistique lorsque l'on endosse ce rôle d'artiste, et il y a quand même une posture où on arrive quand même à surnager en tant que civil dans la rue. Ou est-ce que les deux ne font qu'un, finalement?
Bon, il faut dire que lui, il avait des états dépressifs qui, évidemment, faisaient que peut-être ses projets, elles n'ont pas vraiment pu aboutir, dans la mesure comme il aurait voulu.
Mais alors, on peut dire que ses œuvres, elles font partie de lui, directe émanation.
Moi, je dirais même à un certain moment, ils lui ont permis de vivre.
Ouais. D'accord. C'est une expo posthume. Effectivement, extrêmement délicat de monter cette exposition-là. À quel moment vous vous êtes dit, on le fait quoi qu'il en soit, malgré le fait que l'artiste ne soit plus parmi nous, Myriam?
Moi, je pense que aussi étant loin, peut-être je me suis moins rendu compte à quel point, en quelque sorte, c'était délicat. Et puis pour moi, c'était plus. En fait, j'avais organisé cette exposition avec lui, c'était bien passé. On avait eu un peu cette idée qu'on allait continuer à travailler ensemble. Moi, je voulais continuer à organiser plus d'expositions et vraiment travailler avec lui. Et ensuite, je suis partie en voyage en Nouvelle-Zélande et je suis jamais vraiment revenue, en quelque sorte. Et quand j'ai appris son décès et que j'étais là-bas, il y a eu un peu une partie de moi qui me suis dit, j'ai pas pu accomplir ce projet avec. Et c'était comme une sorte. C'est quelque chose que je devais faire, en fait. Mmh. C'est quelque chose qu'on s'était dit et qu'on n'avait pas accompli. Une sorte de promesse qui n'avait pas été tenue. Donc pour moi, en fait, quand j'ai appris le décès, ça a été automatique. Je me suis dit, il faut le faire. Et après, c'est vrai que moi, j'étais un peu loin. Donc j'étais aussi un peu peut-être détachée de toute cette. Toute la partie plus émotionnelle, en fait, en quelque sorte. Et moi, c'était vraiment, j'étais un peu dans cette idée. Puis, au final, je pense que.
Il y avait un moment, pour certaines, c'était trop tôt. Parce que, ils avaient peur que ça allait faire remonter tout un contexte émotif. Et finalement, maintenant que l'expo est là, et les gens sont là. En fait, il se passe le contraire. Mm. Tout d'un coup, on reconnecte le personnage vivant. Et en fait, il a comme réconciliation avec. Et c'est tout le monde, nous remercie même de l'avoir fait parce que. Il avait des jeunes qui n'ont pas osé de venir parce qu'ils avaient. Ils avaient peur d'être confrontés copains de lui, confrontés avec le deuil. Ouais. Alors, ceux qui sont venus, ils étaient très contents.
Et je pense que, il n'y a pas beaucoup de gens, en fait, qui, quand ils meurent, ils laissent autant de choses derrière eux. Et pour moi, c'était... il faut en faire quelque chose. On ne peut pas juste les laisser dans un grenier. Pour moi, fallait les exposer, fallait les montrer,
C'est ici la première fois que vous le faites ou y a-t-il un précédent ou y aura-t-il une ou des suites à cette exposition qui, on le rappelle, a lieu au Pavillon Bleu, donc en plein cœur des grottes à Genève, derrière la gare Cornano.
Je vais peut-être juste dire pourquoi dans le Pavillon Bleu.
Bien sûr.
C'est tout simple. Moi, j'ai fait le tour de Genève à la recherche d'un espace, mais je cherche un espace pour un jeune artiste inconnu et mort. Et je n'ai pas trouvé.
D'accord,
parce que c'est clair, une galerie, elle, ça ne l'intéressait pas du tout. Par chance, j'ai eu contact avec les responsables de cet espace. Et eux, ils étaient d'accord de l'accueillir à condition que ce n'est pas un événement privé, que c'est un événement public, et nous, ça nous enchante de le partager avec tout le quartier. Et on est très, très heureux d'être.
Vous faites effectivement très bien de le dire.
Ouais. Et pour les projets futurs, bon, là, une exposition, on verra. Mais en tout cas, moi, ce que j'aimerais bien, bon, après, c'est, voilà, ça, on verra. Mais ce serait faire aussi un livre plus complet de ses œuvres, en quelque sorte. Donc, on a un site internet sur le flash. Voilà. Je peux le mentionner ou pas?
Ah oui, oui, ouais. Okay, la question, elle est arrivée à un moment donné. Donc, c'est très bien.
Alors, on va changer, en fait. Ce sera emileanderfuren.com. Donc, c'est EMILEANDERFUHREN, un peu long, et .com en quelque sorte. Et donc là, en fait, sur le site, vous pouvez trouver, on a déjà mis la plupart de ces musiques sur YouTube. Il y a quelques-unes de ses œuvres, il y a ses textes, on va rajouter plus, on va continuer à rajouter. Et si on a un projet d'exposition, on l'annoncera là-bas. Et aussi, on aura les livres à disposition. Et donc, voilà.
D'accord. Si jamais... Alors, ça, on a bien noté. Nous, on mettra également le lien, évidemment, sur le site de la radio. Le choix des œuvres, a-t-il été difficile? A-t-il été douloureux? Ou, à l'inverse, ça a été un plaisir, justement, de reparcourir peut-être les étapes d'une vie? Ça,
moi, j'avais la chance d'ouvrir des enveloppes, de chercher dans des boîtes et de récolter tout ce travail et de le regarder. Et comme je savais qu'il fallait faire une exposition, j'ai dû les regarder de près. Et j'ai pas dit celui-là j'aime, celui-là j'aime pas, sinon j'ai dû regarder tous. Et gentiment, j'ai commencé à faire des groupes. Des images qui avaient un sens ensemble et j'ai essayé un peu mieux comprendre aussi le mécanisme qui était à la base de son travail. Un travail se construit, ça tombe pas du ciel, ça se construit. Et alors il fallait trouver un peu justement les lignes de construction. Et j'avais beaucoup de plaisir, j'ai fait ce travail d'approche et après commencé à faire des regroupements. Et après, il avait encore une troisième partie où c'était les regroupements esthétiques. Et j'avais créé une esquisse d'exposition et après on se retrouvait les deux ici dans le pavillon, on a posé les dessins par terre. Et on a finalisé l'accrochage. Parce que l'accrochage, elle est quand même très importante pour pouvoir aider aux gens à rentrer dans le boulot. On ne peut pas simplement tapisser le mur. Il fallait vraiment...
C'est particulièrement délicat pour avoir le recul qu'il faut, pour avoir une densité, celle qu'il faut. Ouais. Alors justement, quels sont-ils ces groupes? Alors l'idée maintenant, c'est, je vais encore vous poser une ou deux petites questions, et puis ensuite, on fera une déambulation avec un commentaire des œuvres sélectionnées par vous-même. On s'arrêtera là où vous avez envie qu'on s'arrête, et puis on captera ces différents moments et ces différents témoignages que vous aurez envie de nous livrer. Mais je me demandais encore, et pour préciser encore plus le travail d'Emile, parmi ces groupes, donc, y a-t-il des groupes temporels, thématiques, de matière, hein? Est-ce qu'il y a différentes manières de peindre? Comment avez-vous déterminé ces groupes?
Bon, au niveau des techniques, il a tâtonné un peu tout. Il était très polyvalent dans ses recherches. Maintenant, par rapport au thème, il avait le thème du fantastique. Ça, c'est un thème assez important. Après, il a aussi un thème famille, c'est-à-dire ce qu'il vivait en tant que père, en tant que compagnon. Et voilà, il a donné, évidemment, il a donné image. Il a aussi un groupe politique, regard politique, critique. Et toute une grosse partie de portraits qui sont c'est regarder les autres.
D'accord.
Voilà, regarder soi-même et regarder les autres.
Ok. Ouais. Et dernière question avant que l'on s'adonne à cette balade sélective, avez-vous pu observer la manière dont, parce que souvent ça c'est assez révélateur d'un artiste, dont l'artiste produisait ses œuvres? Est-ce que c'est dans des moments d'apaisement, dans des moments de crise? Et quand il le fait, est-ce que c'est... Voilà, si on prend des extrêmes du Pollock, on y va,
Ouais.
Est-ce que c'est plus dans l'apaisement et puis dans la concentration et dans une forme de méticulosité? De quelle manière est-ce que...
Alors, il était assez méticuleux, ouais. Parce que déjà par son métier de graphiste, il était exigeant. Mais en même temps, il pouvait faire des dessins, vous allez voir, des dessins très grands, très vite, très rapide. Il avait les deux choses, mais c'était toujours très, quand même assez soigné.
Et effectivement, on l'a vu tout à l'heure en regardant rapidement l'exposition, en termes de format également, il y a du monumental petit. C'est-à-dire que des fois, on doit prendre du recul, des fois, on doit s'approcher. Ça, c'est une volonté également de l'artiste de nous donner quand même des jalons, des pistes.
Alors maintenant, à quel moment il peignait ou dessinait? Beaucoup la nuit.
Ouais.
C'est clair, c'est quelqu'un comme lui. C'était la nuit, c'était l'endroit où il était tranquille, où le monde ne le dérangeait plus. Il avait besoin de ce recul. Beaucoup la nuit.
Je vous propose que l'on termine ici la première partie. On va reprendre notre souffle et puis ensuite on fera une petite déambulation si ça vous
va. D'accord.
Ça va très bien, merci.
Retrouve les podcasts des émissions sur Libradio, www.libradio.org.